Donc, juste avant de se lancer ce matin, on va prier. Seigneur notre Dieu, on te remercie de qui tu es, Seigneur. On a chanté ce matin, chante Alléluia au Seigneur. Chante la gloire de Dieu. Venez le célébrer. Et Seigneur, on veut se rappeler ce matin ensemble qu'on a plein de raisons de te célébrer. Seigneur, il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ce matin, Seigneur, on veut simplement te remercier. Te remercier de l'abondance qu'on vit au Québec. Te remercier, Seigneur, que dans toutes nos épreuves, tu es avec nous. Te remercier, Seigneur, qu'on peut avoir la foi que tu vas nous bénir, nous diriger et nous guider pour qu'on devienne plus semblable à ton Fils Jésus. Qui parfois, Seigneur, c'est quelque chose qu'on perd de vue. On veut le meilleur pour nous et on a notre propre version de ce qui est bon. Mais toi, Seigneur, tu nous appelles à ressembler à Jésus. Et Seigneur, quand on prend le temps d'observer notre vie sous la loupe qui nous est disponible à travers ton Fils, on voit, Seigneur, qu'on est loin du compte. On est très loin de ressembler à ton Fils et on veut te remercier parce que, comme ça a été partagé ce matin, tu es patient avec nous. Tu nous permets d'avancer de petite victoire en petite victoire. Et tu nous tolères, Seigneur, quand après avoir fait un pas en avant, on en fait deux en arrière. Tu es patient avec nous, Seigneur, quand on doute de toi. Après t'avoir vu faire un miracle, Seigneur, tu es patient avec nous quand on oublie. Tu es patient avec nous. Tu es tellement bon, Seigneur. Et merci parce que tu es un Dieu personnel qui traite avec moi de la façon qui va être efficace pour moi. Tu n'es pas un « one size fits all », mais tu t'occupes de chacun de nos cœurs à la perfection, Seigneur. Merci pour ça et bénis l'enseignement de ta parole, soit avec moi, soit avec aussi tous les gens qui vont le recevoir, que tu puisses préparer les cœurs et travailler par ton Esprit Saint. Seigneur, on prie ces choses pour ta gloire. Amen. Donc, ce matin, comme vous pouvez voir, on va regarder ensemble un peu. L'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. J'ai pris ça dans 1 Samuel au chapitre 16 et au verset 7. Et la raison pour laquelle c'est un peu le thème ce matin, c'est qu'on m'a demandé avec le Conseil des Anciens, m'a demandé de vous amener un petit mot de témoignage de différents parcours de vie que j'ai eu au niveau de... dans le fond, de l'œuvre, comment j'ai essayé de suivre le Seigneur avec ma femme et nos enfants et tout ça. Donc, je vais vous donner un petit mot de témoignage rapido. Et pour ça, j'ai sorti les boulamites chez mes parents le 26 décembre. Et je suis allé trouver des belles photos. Il y a des petites photos compromettantes. Donc, vous donner une idée, j'ai grandi dans cette belle ferme ici à Saint-Maurice. Mes parents étaient fermiers, des vaches à lait. Et j'ai grandi en sachant c'est quoi se faire réveiller par une queue pleine de pisse d'en face. Ça réveille. Mais on a grandi sur une ferme. Pour tous ceux qui ont déjà grandi là-dedans, ça réveille mal. Mais on a appris, en grandissant sur une ferme, vraiment la valeur du travail, la valeur de la famille, et puis que ça me tente ou pas, et je vous le dis, c'était souvent, ça me tente pas, tu travailles. Okay? Et tu te fais réveiller, tu te fais enlever tes couvertes. Ah ouais, let's go, on s'en va travailler. Donc, le travail avait une grande valeur et aussi la famille. On était ensemble, on travaillait, on faisait partie de la famille. J'ai appris à tout travailler. C'est le plus beau métier du monde pour les gens manuels, même si c'est le plus stressant du monde. Parce que t'es jardinier, t'es gars de la construction, électricien, plombier, tu t'occupes des animaux, tu chauffes des tracteurs, tu conduis des trucks, tu fais tout. Tout, tout. Et ça, c'est le lundi. Le mardi, on refait la même chose, mercredi, jeudi. Donc, j'ai appris beaucoup toutes ces choses-là et j'ai grandi en ayant un super bon comportement. Donc, étant tout petit déjà, j'avais appris à respecter mes parents à la dure. Donc, je le prenais dans le coin. Et regardez cette belle petite face-là, ça a-tu pas l'air d'un tannant? Donc, j'ai grandi, mes parents étaient chrétiens, on allait à l'église, j'entendais parler de l'Évangile, j'allais dans les camps d'été et... j'ai vraiment grandi en ayant une pleine conscience de qui est Dieu, qui est Jésus. Dieu existait. Et j'allais à l'école chrétienne. j'ai pas mis les photos de classe pour pas humilier les gens qui étaient dans la même classe que moi, mais j'ai été à l'école chrétienne à Duberger avec plusieurs personnes ici dans l'église. Et on travaillait à un peu la patience. Et je vous ai mis cette photo-là parce que, étant jeune avec mon père, on faisait de l'exposition. Donc, vous voyez, c'est pas très facile à voir, mais ici, là, c'est moi avec un beau sourire. Et on avait appris à, en bon québécois, élever une vache pour qu'elle puisse nous suivre. On la mettait un licou, puis là, elle nous suivait. Il fallait qu'elle soit docile. On pouvait placer ses pattes et tout. Et c'était un processus qui était quand même long. Parce que vous savez, quand des fois, quelqu'un décide qu'il ne bouge pas, si une vache décide qu'elle ne bouge pas puis qu'elle ne fait pas ce que vous voulez, elle est plus forte que vous. Je vous rappelle, là-dessus, j'ai peut-être 8 ou 9 ans. Et puis, mon père, il m'avait dit, Marco, il dit, tu vas le faire toi-même. Il m'a expliqué comment. Il dit, tu le fais quand quelqu'un n'est pas gentil, voici ce que tu fais. Puis là. Et après plusieurs mois, à la brosser pour la rendre amicale, on les présentait et ça a travaillé ma patience énormément. Donc, ça, c'est ma famille. Donc, c'est moi ici, mon père, ma mère, mon frère. On était une famille de 4 et on a grandi ensemble dans toutes les valeurs chrétiennes et on a été élevés dans la foi. Et j'ai été baptisé à l'âge de 14-15 ans, en 2004. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai décidé que je voulais suivre ce Seigneur de toute ma vie. Et ça a eu du bon dans ma vie et ça a aussi amené une confrontation avec un peu le monde. Parce que vous savez, quand tu as 14-15 ans, tu commences à suivre le Seigneur. Et là, tes amis du monde, les autres, ils sont pas super d'accord. Donc, c'est venu un peu un contraste, si on veut. Donc, et dans mon adolescence, j'ai rencontré quelqu'un. Et on était ensemble dans les groupes de jeunes. Vous voyez, c'est moi et Sarah ici, à la merveilleuse âge de 17 et 19 ans. Et Sarah a commencé à me défier, me challenger, parce que moi, j'aimais ça et j'aime encore ça, en bon québécois, foutre le trouble. Et donc, on était au groupe jeunesse. Et moi, s'il y a une chose que j'aime pas, c'est des réponses toutes faites. Et donc, quand j'avais des questions et que quelqu'un me donnait une réponse toute faite, avec aucune considération pour ce que je vis, et avec aussi, dans mon expérience personnelle, une certaine hypocrisie qui était là dans ce que je vivais un peu dans ma foi chrétienne, et moi, j'arrivais avec des questions authentiques. Qu'est-ce que tu fais avec mes amis qui s'en vont en enfer, qui se foutent de Dieu, qui regardent la porno, je leur parle de Dieu, puis ils m'envoient des photos que je veux pas voir, puis là, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, ils sont comme, ah, le Seigneur est bon. Je sais qu'il est bon, mais je fais quoi? Et personne pouvait me donner des réponses satisfaisantes jusqu'à ce que, dans la jeunesse, avec Sarah et un des leaders jeunesse qui était là, qui était Gabriel Paquin, j'ai pas mis de photo de lui parce que j'en avais pas où il y avait pas de tarte à la crème d'en face, mais... Gabriel s'est mis à simple. Au lieu de me donner des réponses toutes faites, il me donnait un livre. Il me donnait un verset. Puis là, il me disait, Marco, va réfléchir. Ça, c'est fatigant. Parce que tu peux pas dire que c'est une réponse toute faite. Il me donnait la parole de Dieu. Et puis là, il me nourrissait de la parole de Dieu. Et puis là, des fois, j'avais une grosse question existentielle. Et puis là, il me disait, ah, Marco, j'ai un petit commentaire pour toi. Puis il y avait le don d'avoir des petits commentaires comme de... 50-60 pages, qui répondaient exactement à ma question. C'était rempli de versets de la Bible. Donc, à travers toutes ces étapes-là, Gabriel a fait un peu de moi un disciple ancré dans les Écritures. Au lieu d'être un disciple qui a les réponses vagues, préconçues, on a appris à chercher dans la parole de Dieu, on a appris à ancrer notre foi. Et donc, le petit gars qui s'était fait baptiser, qui voulait suivre le Seigneur par conviction, était maintenant un petit gars qui voulait suivre le Seigneur ancré dans la parole de Dieu. Donc, j'ai été à la même école que Joël, mais on ne s'est pas vu, là, il est pas mal plus vieux que moi. j'ai été à l'école biblique, j'ai fait les 4 ans, j'ai fait un baccalauréat en théologie là-bas. Et ensuite, on s'est mariés, moi et Sarah. C'est une photo qui représente très bien notre mariage. Et par la suite, on a été travailler, on a été œuvrer dans plusieurs églises, mais l'Église qui nous a marqué le plus, c'est qu'on a été, après un an de mariage, on a été invité à aller en Abitibi. Et j'ai travaillé avec Tony et Nathalie pendant trois ans là-bas en Abitibi. Et en Abitibi, on a commencé notre famille. Donc, on a eu premièrement Caleb. Après ça, on a eu Allée-Rose. Et finalement, on a eu Isaac. Et il y a maintenant 4 ans, on accueille aussi notre belle-sœur depuis le décès de ma belle-mère. Donc, c'est notre petite famille. On est ici à l'église et on est vraiment heureux de pouvoir servir. Et j'aimerais vous amener, c'est la façon que je vous résumerai un peu ma vie, c'est suivre Jésus, peu importe le coût. Parce que là, je vous fais un survol rapide, mais j'aimerais vous parler de façon efficace de ce que Dieu a travaillé dans ma vie pour savoir qu'est-ce que je fais à Trois-Rivières. Parce que, honnêtement, si vous m'aviez demandé, il y a 2 ans, si je me voyais à Trois-Rivières, la réponse était non. Je voulais m'en aller le plus loin possible de Trois-Rivières, et vous allez comprendre. Mais Dieu a un plan. Et suivre Jésus, peu importe le coût, c'est ce que j'aimerais vous amener ce matin, qui a un lien avec le fait que l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Un point que je ne vous ai pas dit qui est central à ma vie, c'est, y en a-t-il ici qui vivent avec le sentiment que vous n'avez pas rapport nulle part? Moi, c'était ça. Depuis que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, je ne fit pas nulle part. Parce que, je vais vous expliquer vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai grandi sur une ferme. Mais moi, j'aime la musique rock, métal. Et dans la, j'ai pas mis de photos, parce que là, on s'entend, c'est du sujet sur Internet. Là. Mais j'ai décidé d'avoir un look assez punk dans l'adolescence. Mais en plus de faire ça, de jouer de la guitare électrique, j'étais quand même bon dans les sports. Mais là, quand tu es un fermier, quand tu travailles sur une ferme, les gens qui travaillent à l'épicerie puis tout ça, ils te snobent un peu. Je sais pas si c'est votre expérience. Dans le temps, quand j'étais ado, c'était ça. Alors, j'étais un fermier, mais en plus, j'avais un look punk. Mais là, quand tu as ce look-là, tu n'es pas supposé être bon dans les sports, puis tu n'es pas supposé travailler, tu es censé être rebelle. Je n'étais pas rebelle. Dans le sens que je pouvais faire ce que je voulais, j'étais content, je faisais des niaiseries, mais je n'étais pas rebelle. Je n'en voyais pas promener les professeurs, j'en voulais pas à la société. Et là, quand tu es ça, mais en plus, j'étais bon dans les sports. Donc là, quand tu es bon dans les sports, tu n'es pas supposé avoir ce look-là. Et fait que là, je ne fitais pas nulle part. Ce qui finissait par dire que j'étais un peu un caméléon et j'avais beaucoup de difficultés à trouver ma place. Et ce qui m'a fait vraiment accrocher au Seigneur, c'est que j'ai eu un mentor qui était impliqué dans l'Église. Il nous a impliqués dans la louange. On fait de la musique depuis que j'ai peut-être 14-15 ans. J'ai appris la guitare juste pour jouer à l'Église. Ma femme a appris le saxophone pour jouer à l'Église. On a appris des choses ensemble. Juste pour servir, ils ont fait des conférences, on a fait plein de choses avec nos mentors qui prenaient des jeunes et disaient, oh, on va commencer ça, toi tu fais des téléphones, toi tu fais ça. Et tu finissais par être impliqué dans ton église. Et vous donner une idée, moi j'étais pas dedans, mais quand ma femme avait 14 ans, 15 ans, sur le conseil d'évangélisation de l'église, il y avait 5 jeunes. 3 ou 4 jeunes sur 7 personnes. Et des jeunes, je veux dire des gens en bas de 18 ans, là, 14, 15, 16 ans, qui voulaient avoir un impact dans les gens autour d'eux. On était motivés à bouger. Et ça a vraiment eu un impact. Et finalement, j'ai été à l'école biblique. Et savez-vous ce qui est arrivé à l'école biblique? Je ne fitais pas dans le moule, mes amis. Parce que quand tu vas dans une école, puis là, j'ai rien contre les anglophones, je vous aime. Mais, faut que tu fites dans le moule. Et quand tu es un métalleux fermier qui aime ça faire des niaiseries, qui est bon dans les sports, mais qui n'est pas tellement bon dans les sports, puis j'ai pas le sourire facile, j'écoute pas du worship, je ne fitais pas dans le moule. Et je voudrais vous dire que mes années d'école biblique, les années que j'étais à NBBI, c'est les 3 pires années de ma vie. Parce que, vous savez, quand on est drillé, quand on est amené par notre mentor à s'impliquer dans l'Église, à faire de la musique, à aller dans les différents trucs de l'Église, que l'Église fait, d'être actif. J'étais arrivé à l'école biblique et on m'a dit non à absolument tout. OK? Ils ont besoin de chanteurs, ils ont besoin de musiciens, ils ont besoin de gens pour faire de l'évangélisation, ils ont besoin de gens pour aller dans les groupes de jeunes, on a besoin de gens pour faire des prédications. Eh bien, j'ai jamais été pris dans rien. Et sur trois ans, c'est la première fois, puis j'en ai parlé à mes professeurs, ils ont dit, ben après les trois ans, parce que quand tu décides d'aller te plaindre un petit peu avant d'être dans ta troisième année, tu n'es pas tellement crédible. Mais après les trois ans, j'ai été me plaindre un peu. Je dis, là, j'ai jamais été accepté dans aucun groupe, ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas. Je fais quoi ici, moi? Dieu avait un plan. Dieu avait un plan très, très sage, plus sage que je pensais. Dieu ne regarde pas aux mêmes choses que nous. Je n'avais pas besoin d'apprendre à m'impliquer. J'avais besoin d'apprendre à me reposer dans le Seigneur. J'avais besoin d'apprendre à faire de Dieu le centre et l'encre de ma vie à travers la parole de Dieu, à travers les différentes choses qu'on apprenait. Je n'avais pas besoin d'apprendre à prêcher ou d'apprendre à aller évangéliser. Non, j'avais besoin d'apprendre à arrêter. Mais je n'apprends pas vite, vous allez comprendre. Ensuite, je me suis marié avec la meilleure des partners ever. Moi et Sarah, on s'est mariés en 2011. Je vous laisse compter. Et on a commencé notre famille et on a en fait commencé ensemble et on a travaillé dans plusieurs jeunesses. Donc, on est allé à l'église où on était. On allait au Cap-de-la-Madeleine. On a fait la jeunesse là pendant un an. Et encore une fois, on a fait la jeunesse pendant un an de façon... la jeunesse là-bas, vous donner une idée, on faisait une rencontre le mardi avec les jeunes. On allait les chercher à l'école à toutes les deux semaines environ. On dînait avec eux, certains des jeunes qui acceptaient. On faisait le mercredi soir une réunion de prière juste pour les jeunes. Le vendredi soir, on faisait la jeunesse. Le dimanche matin, il y avait une prédication spéciale pour eux. Le dimanche soir, on allait à l'église le soir avec eux, puis la plupart du temps, on essayait de faire la louange. Et on a fait tout ça pendant un an, mais après six mois, on est obligé d'en enlever la moitié, parce que je faisais une trentaine d'heures pour l'église, mais en même temps, je travaillais dans une ferme à faire un 40-50 heures. Donc, si vous comptez vite, là, j'avais pas de vie. Donc, ça n'a pas été évident, mais après un an de faire ça, on a été approché en fait, par un concours de circonstances. Dieu a un plan. Par un concours de circonstances, moi et Sarah, on s'est ramassés dans le salon chez Tony. Et Tony nous a dit, simplement, nous a approchés, avec aussi l'autre ancien là-bas, pour nous dire qu'il avait besoin d'un responsable jeunesse, d'un leader jeunesse, puis qu'il avait les sous pour m'engager, pour que je puisse venir faire, et j'avais un contrat d'organiser, préparer une jeunesse et de mentorer les leaders qui étaient déjà là. Parce qu'il y avait du monde qui voulait le faire, mais pas tellement mature dans les différents points. Donc, ils m'ont donné certains points, et après plusieurs mois de réflexion, Sarah était prête tout de suite. Moi, j'étais plus lent à comprendre. Et donc, après six mois peut-être de réflexion, on a dit oui, on est allé. Et ça a été deux ans et demi, trois ans, très, très, très formatrice. Parce que quand tu commences à prêcher, à t'impliquer, former quelque chose, puis que tu as 21 ans, bien, des fois, tu fais des erreurs. Et on a fait plusieurs erreurs, et après deux ans et demi, trois ans, le contrat qu'on m'avait demandé, le mandat qu'on m'avait donné était complété. Et il y avait une certaine situation dans l'Église qui n'était pas évidente. Et donc, après un bon temps de prière, un bon 3-4 mois de prière avec Tony, puis Nathalie, toute là avec Sarah, puis les anciens là-bas, on en est venu à la conclusion que, bon, le mandat était terminé, on n'était pas capable d'en faire un autre efficace qui satisfaisait tout le monde. Donc, on a essayé de... Dans le fond, j'ai décidé de retourner sur le marché du travail. Et des fois, le Seigneur a un plan qui n'est pas le nôtre. Donc, vous donner une idée, j'ai envoyé une cinquantaine de CV dans le bout de la BTB, pour ne pas avoir aucune réponse. Parce que quand sur ton CV, c'est marqué que tu as un bac en théologie, ben les gens, ils te rappellent puis ils disent, c'est quoi ça, un bac en théologie? Donc, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'une semaine, un jour, je suis revenu en visite à Trois-Rivières pour visiter mes parents. Et pour le fun, j'ai dit, oh, je vais envoyer 2-3 CV. La réalité, c'est que j'en ai envoyé 2, mais j'ai eu 2 réponses positives qui disaient, tu peux commencer vendredi prochain. Donc, on a comme compris un peu, puis on avait mis ça devant le Seigneur en prière. Les deux, on sentait que peut-être on était appelé à retourner. Et donc, quand on a vu ça, on a dit, bon, Seigneur, on fait le move. Fait qu'on on est revenu dans la région. Et on s'est impliqué dans la même église. Et on a reparti la jeunesse là-bas qui était mourante. On a fait des groupes de jeunes. Et avec la jeunesse là-bas, j'ai passé au travers de l'Épître aux Romains, l'Évangile de Jean. Puis on a fait aussi le cours « Le seul vrai Dieu » par Paul Washer avec eux. En 3 ans, on a ramené ça. Et le Seigneur a toujours un peu des plans. Le Seigneur a toujours amené des gens pour nous entourer là-bas. Et donc, l'équipe était faite. Ça s'est fait en une semaine, même pas. Des gens qui avaient ça à cœur l'ont fait. Et il s'est formé une équipe autour de nous. Et le Seigneur a vraiment fait des belles choses là-bas. Puis un jour est arrivée une autre situation qui est incompréhensible à ce jour de ma part. Je ne comprends pas la situation. Mais il est arrivé une genre de chicane entre moi et le leadership que je ne peux pas vous dire parce que j'ai aucune idée c'est quoi. Mais à travers cette chicane-là, cette épreuve-là, il y a eu un énorme schisme en moi, dans le leadership et tout. Et on est obligé de quitter. On est obligé de quitter. On a perdu notre église. On s'est fait un peu mettre dehors, sans se faire mettre dehors officiel. Et on est tombé dans la deuxième partie. Il était supposé apparaître après. Mais on a eu des épreuves et du doute. On est tombé entre 2 chaises. Et là, on ne savait pas qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et ça, c'est une épreuve. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? C'est quoi j'ai fait? C'est quoi mon erreur? C'est quoi le problème? C'est-tu parce que je suis trop orgueilleux? C'est-tu parce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Pourquoi on est entre 2 chaises? Pourquoi on a perdu notre maison spirituelle? Pourquoi est-ce que les gens ne nous parlent plus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'entends plein de choses autour de moi qui ne sont pas vraies? Puis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi? Puis là, on est tombé dans une période de doute. On se questionnait beaucoup. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on en est venu à dire, coudonc, Seigneur, veux-tu qu'on parte une église maison? J'étais peut-être dans patate complètement, puis le Seigneur ne veut pas que je sois dans l'œuvre. Le Seigneur n'a pas besoin de moi, dans le fond. C'est une réalité. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Et là, on se questionne beaucoup. Et à travers ce point-là, j'ai retourné sur le marché du travail, mais j'avais fait un DEP, j'étais plombier. J'ai pris le temps de retourner sur le marché du travail. J'ai travaillé pendant 5 ans comme plombier. J'ai fait un peu tous les styles de plomberie pour ceux qui s'intéressent. Mais je me suis promené et c'était bien, c'était un beau métier. Ça paye les billes. Mais il n'y avait pas non plus il n'y a pas de joie pour moi à aller poser des tuyaux. Il n'y en a pas. Surtout l'ambiance d'un chantier de construction. Pour ceux qui savent c'est quoi, il n'y a pas grand plaisir là-bas. T'sais, la seule fois que tu entends le nom de Jésus, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Mais le Seigneur a permis, à travers ce 5 ans-là, il y avait un plan. Vous comprenez? Et le Seigneur m'a montré plusieurs choses. Un, sur ma personnalité, sur qui j'étais. Il m'a aussi appris à un peu m'entendre avec plein de type de gens différents. Vous donner une idée, dans toutes les compagnies que j'ai travaillées, les boss venaient me voir et ils disaient tout à la même chose. Ils disaient, Marco, on t'a engagé, mais on n'avait pas vraiment besoin de toi. Donc, on a un employé problématique. Personne ne veut travailler avec. Si tu es capable de l'endurer, on t'engage. Et ça a fait ça dans toutes les compagnies que j'ai travaillées. Excepté une que, ben, on était moi puis le boss. C'était dur de. Mais dans toutes les autres compagnies, c'était ça. Et le Seigneur m'a appris à accepter, parler avec les gens. Et j'avais toujours eu des bonnes relations avec tous mes compagnons de travail. Il y avait des petites ouvertures. Je pouvais leur parler un peu de l'Évangile. Il y en a qui s'en foutaient complètement. Il y en a que ça les intéressait. On jasait une fois ou deux. Mais pas plus que ça. Mais des belles relations. Et tout le monde me disait tout le temps, Marco, on est content que tu sois là. C'est agréable de travailler avec toi. C'est dur à croire que ça se peut être. Là. Tu ne pognes pas les nerfs, tu es calme, ça va bien, tu ne cries pas après personne. Et le Seigneur m'a vraiment formé à devenir plus un leader comme lui veut qu'on soit. Donc, ça veut dire parfois, ben, tu acceptes, tu t'humilies. T'as... La plus grande chose que j'ai appris dans ces 5 ans de travail-là, c'est de dire, tu as raison, je me suis trompé, je vais réparer. Parce que quand tu as un plan, que sur le plan, même s'il est mal dessiné, même s'ils ont changé le plan 4 fois puis ils t'ont donné le B quand il fallait que tu fasses le C, c'est de ta faute. Et tu acceptes que ce soit de ta faute, tu répares et tu continues. Et vraiment, ça m'a complètement, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de voir que dans les chicanes que j'avais eues, dans tout ce qui était arrivé, ben, j'ai toujours su que j'avais des voyons, comment on dit ça? Ouais, c'est ça, j'avais des torts. Et là, je les ai compris un peu mieux. Bon, encore une fois, je pense pas que c'était si extrême que ça, mais c'est ma vision des choses. Mais après un certain temps, il est venu une conviction profonde que Dieu nous appelait, moi et ma femme, à retourner à l'œuvre. On est des gens qui veulent, qui aiment l'Église. On aime les gens de l'Église. On aime la parole de Dieu. On veut la partager. Et mes dons spirituels, c'est dur de les utiliser dans le salon chez nous. OK? Et j'ai eu la conviction profonde il y a quelques années. En fait, il y a 4 ans. 4 ans, 5 ans. En tout cas. Il y a bientôt 5 ans, je crois, j'ai eu la conviction profonde que le Seigneur m'appelait à retourner à l'œuvre. Et là, je prends un petit temps pour vous expliquer les choses. Suivre Jésus, peu importe le coût, l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Il a un plan qui n'est pas le nôtre. Donc, j'ai contacté l'Association Baptiste pour dire, regardez, voici ma situation. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et c'est le Seigneur qui vous parle. Et à travers ce point-là, quand j'ai contacté l'association, ça, vous allez rire, mais ils m'ont dit, ouais, c'est génial, on veut te rencontrer et tout. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un a une idée de ce qui est arrivé? T'en souviens-tu, Noël? Il est là, c'est quand même drôle. Ils ont perdu mon numéro. Et là, donc là, moi, j'ai attendu 4 mois, 5 mois, pas de réponse. Ben voyons, ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient. Ben, c'est pas grave. Ouais, tombant de 2 chaises. Et là, un moment donné, on se recroise à une place, et là, je le vois dans ses yeux, il fait « J'ai perdu ton numéro. » Il vient me voir. Et là, il me redemande mon numéro. Je fais « Ah, il n'y a pas de problème. » Tu sais, moi, j'ai la conviction que le Seigneur va faire les choses en son temps. OK? Je suis impatient, mais le Seigneur a un plan. Et là, il dit « J'ai perdu ton numéro. » Il prend mon numéro, puis là, il le donne tout de suite à l'autre personne. Qu'est-ce qui arrive selon vous? L'autre personne a perdu encore une fois mon numéro. Mais cette fois-là, on avait quelque chose peut-être 1 mois ou 2 plus tard. Donc, on retourne là. Et ils me voient encore. Ils font, oh, Marco, faut qu'on se voit. Fait que là, on va prendre un temps avec eux. On dîne ensemble. On prend le temps de prendre des nouvelles et tout. Et on vivait une situation où la mère de Sarah, ma belle-mère, était malade. C'était son 5e cancer. Et on savait que c'était un décompte. C'était pas le temps de s'engager pour retourner, peut-être déménager pour aller servir dans une église. C'était pas un bon temps. Et le Seigneur a mis ça clair. Mais en même temps, tu te dis, voyons, perdu mon numéro 2 fois, la belle-mère, le deuil. Et moi, dans ma stupidité, je minimisais un peu ces choses-là. Mais Dieu avait un plan, et Dieu a fait des grandes choses. On a eu, ma belle famille a pu avoir un temps exceptionnel de deuil, de dire bye-bye à leur mère, et ça a eu des impacts profonds sur eux. Et Dieu m'a montré qu'il voulait, c'est un peu le dernier point, il voulait amener une restauration complète. Donc, après ce temps-là, on a eu 1 an ou 2 sans vraiment avoir d'avancée, parce que c'était pas le temps. Il y avait un deuil. Il y avait encore certains doutes. Et on avait eu certaines rencontres et ça ne donnait pas. Et encore une fois, un jour, j'ai dit, OK, on est prêt, ça y va. Et ça a pris 1 autre année. Parce que quand on avait commencé les étapes avec un responsable, il y a eu des changements dans l'association en elle-même. Et donc, ils ont changé de personne responsable. Et là, ton dossier est là, mais Y es-tu complété? Y es-tu pas complété? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, tu n'es pas prioritaire parce que, ben, tu n'es pas mort, puis tu n'es pas en crise, tu es juste disponible. Ça a pris une autre année, et après ces deux ans-là, on a eu vraiment, en fait, après ceux qui ont compté rapidement, après 4 ans, on a eu un contact avec Jean-Philippe, qui est un peu un des responsables pour, je ne me souviens plus ce qu'il fait, il y a trop de chapeaux, mais on a eu une rencontre avec lui et ils nous ont approchés, ils nous ont encouragés à aller dans une église et à réapprendre à faire confiance à un conseil d'anciens. Parce que nous, on avait été plusieurs endroits brassés par des conseils d'anciens, je ne faisais pas confiance au leadership. J'avais un peu peur de tout ça parce que je me disais, c'est quoi qui va encore arriver dans ça? J'étais très, très craintif. Et on est allé après ces 2 ans-là, ils nous ont proposé, il a dit, allez faire confiance à un conseil d'anciens, vous pouvez aller à Trois-Rivières, vous pouvez aller à Chamonix-Sud. Il a dit, allez dans une de ces deux églises-là, vous allez apprendre. Bon, c'est des églises qui ont des conseils d'anciens qui vont bien, qui ne se chicanent pas, et puis ils vont vous prendre un peu sous leur aile. Ils vont être capables de restaurer un peu votre confiance dans un conseil d'anciens. Donc, je connaissais un peu de personnes ici, Sarah aussi, mais on connaissait presque personne à Chaoussud. Donc, on s'est dit, on va aller où on connaît personne. On ne peut pas être déçu. On est allé à Shawinigan pendant 1 an et demi environ. On a appris à connaître les gens là-bas. Et on a connu des gens qui sont vraiment agréables. On a eu du bon temps. Et là, le Seigneur nous a amenés. Après un certain temps, on a eu un entretien officiel. Et là, c'est quand même intéressant parce que c'est des pasteurs et des gens qui sont choisis au hasard. Et dans les gens qui faisaient notre entretien, qui nous posaient des questions, moi et Sarah, on était là, il y avait un Saguenéen qui était rendu à Trois-Rivières, qui s'appelait Joël. Et Joël était dans les gens qui nous posaient des questions. Et lui et moi, on n'était vraiment pas intéressés à ce que je viens à Trois-Rivières. C'était pas le temps. Il y avait tout le monde qui était là et tous les besoins étaient là, mais il nous a posé des bonnes questions. Il a apprécié notre honnêteté, il a apprécié ce qu'on dégageait, qui on était. Et c'est resté là. On a eu nos réponses, on a eu nos choses. Et après environ 5 mois plus tard, ça fait 4 ans qu'on attend. Alors je suis restauré, je suis capable de. J'ai été un peu avec le conseil d'anciens à Chaoussud, j'ai eu du bon temps, j'ai eu du mentorat, on est restauré, on est prêt. J'enseigne à l'école du dimanche, fait une prédication un soir de où on était en église. On est restauré, on est prêt. Et là, il arrive la même semaine, ça fait 4 ans qu'on attend, la même semaine, 2 offres. C'est Joël qui nous appelle et dit, on a une place à Trois-Rivières. Pour un leader jeunesse, ça fit avec tout ce que vous avez déjà fait et on aimerait ça pouvoir continuer à vous aider, faire une petite formation et tu as la capacité de prêcher et tout. Donc, il a pris le temps et ensuite, on a eu une offre aussi de pouvoir continuer les études, faire une maîtrise à Chaoussud. Après avoir pris un bon temps pour prier là-dessus, on a pris un bon 1 mois et demi, 2 mois pour prier là-dessus, pour réfléchir les pour, les contre. On a appelé bien du monde. On a prié avec bien du monde, on a regardé on était où. Bien, on a décidé de venir ici à Trois-Rivières. On a décidé de prendre un peu ce qui nous était offert par Joël, et ça fitait. Et je peux vous dire qu'il y a eu une restauration avant, et il y a eu une restauration pendant. Si vous savez la bénédiction que c'est d'être ici avec le conseil d'anciens, qui ne sont pas toujours d'accord, mais qui ne se chicanent pas, et de rencontrer Joël, Tony, plusieurs fois dans un mois, parler avec eux, être authentique, être vrai, être tenu redevable, avoir tout et avoir des discussions que tu n'as pas avec tout le monde. Et vous savez, première rencontre que j'ai avec Tony puis Joël, je ne sais pas si Tony était là, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais la première fois qu'on se rencontre, les 3 boys, Joël, il y avait un agenda et il m'a posé 3 questions. Il m'a dit, comment ça va? Je dis, ça va, là, on parle de ça. Puis là, il m'a dit, comment ça va avec ta femme? Ah. Oui. Fait que là, il dit, c'est quoi votre dernière chicane? Ah. T'es vu en ordre alphabétique ou un. Et puis là, on a parlé de choses qui m'ont poussé et qui m'ont obligé à être authentique. Pas avec tout le monde, je ne vous dirai pas ce qui se passe chez nous, mais avec d'autres hommes qui, eux aussi, puis là, moi, je dis, ah, j'ai fait ça, j'ai fait une niaiserie, là, j'ai dit ça, puis c'était vraiment con. Et là, il dit, amen, bravo. Maintenant, comment tu vas restaurer les choses? Comment tu vas amener les choses? Et donc, des défis, et puis là, la prochaine fois qu'on se voyait, il y avait un petit sourire dans la face, puis, les fêtes. Et j'ai grandi là-dedans. C'est pas facile, mais je suis tellement content. Si vous saviez à quel point c'est bon pour l'âme d'être repris. Et c'était pas mon plan. Moi, je voulais m'en aller. J'avais été échaudé par plusieurs choses. Mais là, on est ici, on sert. Et puis, comme dirait un bon anglophone, « The sky is the limit ». Ici, il y a plusieurs projets qui peuvent démarrer. On est une église qui veut aller vers l'extérieur, qui veut évangéliser. Des projets, il n'y a pas de bâton dans les roues, à moins que ce soit une idée un peu crackpot. On n'a pas de limite. On est bien et on est vraiment content. C'est une belle église. C'est bon de servir ici. Et on est en train de vivre, dans mon cas, une pleine restauration avec ses défis. Très, très, très. En toute honnêteté, il y a des défis. Et on ne pense pas toujours pareil. Et j'ai une mentalité un peu différente. Et ça amène des frictions dans le couple. Ça amène des frictions dans la vie en général. Ça fait partie de la game, mais on est bien entouré. Vous êtes bien entouré à l'Église ici. Et il y a des ressources, il y a des gens qui aiment le Seigneur, qui vont vous défier un petit peu des fois dans des choses plus difficiles, mais c'est donc bon. Ne vous gênez pas de les contacter. Ne vous gênez pas. Et moi, j'apprends à travers ça, et je peux aussi encourager des gens et tout à travers aussi des rencontres. C'est très agréable de travailler ici. Donc, un gros merci. Un peu de votre confiance. C'était la partie témoignage qui prend quand même un peu de temps. Mais je veux que vous sachiez qu'on a passé à travers plusieurs choses. On a une certaine expérience. Ça fait maintenant 17 ans que je suis dans l'œuvre on and off, à servir dans les groupes de jeunes, à faire des prédications, préparer des choses, préparer des conférences. Je suis vraiment béni de pouvoir recommencer ici. Et ce que j'aimerais vous dire un peu, partager ce matin pour aller en tandem avec ça, c'est que parfois, les plans de Dieu sont insondables. Parce que, parfois, moi, je vois le bon gars à la bonne place. Et dans ma tête, je sais c'est qui. Mais l'Éternel, pas toujours. Et si vous savez, dans 1 Samuel 16, verset 7, c'est quand Samuel est appelé à aller chez Isaïe pour choisir le prochain roi. Et là, le premier, l'aîné des frères, rentre. Il est grand, il est fort, il paraît bien. Et là, Samuel se dit dans son cœur, certainement celui-ci est le futur roi. Et là, l'Éternel lui dit ceci. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce verset-là m'a fait beaucoup de bien quand je repensais à tout ce qui se passait, parce que depuis... Ah, ça fait maintenant 17 ans que je me sens pas comme la bonne personne. Je regarde les autres autour, les autres leaders, les autres chrétiens. Ah, là, puis tu sais, quand on est dans l'auto-inspection, on voit juste nos bébites. Hein? On est tous de même, on est le pire juge de nous-mêmes, ou presque. Et ça m'a fait du bien de dire, des fois, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur. Puis je me suis toujours dit... Dieu est exceptionnel pour être comme ça. Savez-vous, Dieu est exceptionnel parce que Dieu est un Dieu personnel et relationnel. Et ça veut dire qu'il est complètement différent de l'idée qu'on se fait d'un Dieu. Parce qu'à travers le monde, partout où vous regardez, regardez pas les fautes s'il y en a, partout où vous regardez, on a cette idée-là d'un Dieu général. Voyez-vous, un Dieu qui est au-dessus et qui règne et qui a ses lois et qui régit son peuple d'une façon froide, très éloigné et qui dit « Fais ceci et tu vivras. » Et puis là, « Fais ceci et tu vivras », tu peux avoir une brouette puis une chaudière à côté, là. Tu en as une puis un autre. Tu peux décider ce que tu veux qui va être bon pour t'approcher de Dieu. Hein? Êtes-vous d'accord qu'on voit ça un peu partout? Et j'entends souvent la phrase suivante, « Être chrétien, ce n'est pas une religion, c'est une relation. » Êtes-vous d'accord? Moi, j'aimerais vous dire que cette phrase-là est semi-vraie. Parce que suivre l'Éternel, c'est quand même une religion. Là, il y en a qui me regardent et font comme, « Qu'est-ce qu'il dit là, lui? » J'aimerais vous dire, il y a une chose à faire, ce qui en fait encore une religion. Il y en a juste une. Savez-vous c'est quoi? Vous l'avez entendu, avoir la foi. Si tu as la foi en Dieu et en son Fils Jésus, qui nous purifie de tous nos péchés, nous sommes enfants de Dieu. Il y en a une chose à faire. Mais là où Dieu est vraiment différent, c'est comment est-ce qu'il s'approche de nous. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît chacun de nos cœurs. Dieu connaît mon cœur. Dieu sait ce qui est bon. Dieu sait ce qui est dégueu. Dieu sait ce qui n'a pas sa place dans ma vie. Et Dieu peut nous le montrer. Y a-t-il une autre religion qui clame que Dieu s'intéresse à leur cœur personnel? Mon cœur à moi. Et il va dealer avec moi d'une façon qui est différente de vous. Dieu sait exactement sur quel piton peser pour m'amener à la repentance, pour me briser. Il sait exactement sur quel tendon peser pour que, soudainement, je suis rendu à genoux. Et ça va être un piton qui est différent du vôtre. Il n'y a pas d'autre Dieu qui peut faire ça. Vous pouvez par vous-même, en vous mindant, excusez l'anglicisme, vous pouvez essayer de faire le ménage, mais parfois le Seigneur vous montre quelque chose de précis qui a rapport avec vous. Et pour vrai, des fois, ce n'est même pas un péché. C'est juste ça, pour toi, là, c'est non. Ça, vous avez peut-être vu l'annonce qui passe à la TV, ça, ça gosse. C'est pas évident. Mais Dieu est un Dieu bon. Et Dieu dit qu'il connaît nos cœurs, on le voit dans Nombre 14, 24 et Nombre 14, 30. Dieu est un Dieu personnel et relationnel. Dieu, dans 1 Thessaloniciens 2, 4, nous a trouvés dignes de nous confier l'Évangile. Je ne sais pas si pour vous ça a un impact, mais pour moi ça a un impact très profond. Parce que vous savez, quand on passe notre vie à se sentir pas à sa place nulle part, et Dieu vient te dire, toi, personnellement, parce que tu es mon enfant, tu es digne de parler de qui je suis. Tu es digne de connaître mon Évangile et tu es digne de le partager. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur, tu n'as pas besoin d'être dans la classe top-notch, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu es digne de partager l'Évangile. Et ça, ça a une profondeur qui devrait changer notre cœur. Galates 4, 3 nous dit que Dieu nous a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de Jésus. Réalisez-vous que le même Esprit qui a animé Jésus est disponible pour chacun d'entre vous personnellement. Dieu ne bénit pas l'Église en général. Même s'il le fait. Dieu bénit aussi par son Saint-Esprit chacun de vos cœurs. Il vient mettre la lumière. Et Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant que la personne de Jésus? Ah, je pensais que vous dormiez. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant que l'Esprit de Jésus? Non. Et même quand vous lisez dans les Évangiles, Jésus, à un certain moment, il parle aux disciples et il leur explique. Il dit, même si on chasse un démon, lorsque le voleur vient, s'il veut voler la maison, il doit premièrement maîtriser le maître de la maison. Parce que si le maître de la maison est plus fort que lui, est-ce qu'il va pouvoir voler la maison? Non. Si tu rentres chez nous à minuit et demi pour voler ma TV, tu as besoin d'être équipé, pas pire. Mais je ne suis pas Dieu. Si quelqu'un essaie de rentrer dans votre cœur et que Jésus y est présent, Il a besoin de se lever de bonne heure. Voyez-vous, une protection personnelle, c'est pas quand tu es dans l'Église, tu es protégé. Hein? C'est pas un endroit, c'est personnel. Dieu a un plan qui va au-delà de ce que l'homme est capable d'amener, la façon dont on est capable de penser. Dieu n'oublie pas notre travail dans Hébreux 6:10. Dieu n'est pas injuste pour oublier les souffrances, les larmes, les difficultés que vous avez. Dieu est intéressé à vous. Il transforme votre vie d'échec en échec, de victoire en victoire. Dieu veut nous amener à ressembler à son Fils. Parce que c'est son Fils qui nous a rachetés. Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit « Ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. » Et Paul, à travers cette expression-là, très personnelle, est en train d'exprimer la pensée de Dieu envers nous, personnellement. « Ce n'est pas vos biens, c'est vous-même. » Combien de fois l'Église générale, catholique, chrétienne, peu importe, vous entendez ça, hein, ils veulent juste votre argent. Combien d'évangiles de prospérité veulent juste l'argent du monde? Envoyez votre argent, vous allez être béni. C'est pas l'évangile, ça. Ce que Dieu veut, ce n'est pas nos biens. Dieu s'en fout. Il possède la terre au complet. Peut-être que dans votre vie, c'est une lutte et que Dieu va vous demander certains de vos biens. Peut-être que c'est une lutte tellement profonde que Dieu va tout vous les demander, vos biens. Hein? À l'homme riche, qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » C'était son idole. Il n'a pas demandé ça à Matthieu, il n'a pas demandé ça à Jean. C'était pas leur idole. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas nos biens, c'est nous. Avez-vous déjà eu le sentiment que vous ne valez rien et de vous faire dire « Je veux que toi, personnellement, tu viennes passer du temps avec moi. » Ça vous fait-tu pas du bien, ça? C'est-tu pas beautiful, ça? Bien, c'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas vos biens. Dieu ne veut même pas vos dons, il vous les donne. Dieu donne sans compter. Il veut vous. Moi, ça vient me chercher. Et ce n'est pas un plan humain. Moi, quand je regarde tout le monde dans la salle, là, je vois des dons. Toi, je te vois là, toi, je te vois là, toi, tu devrais faire ça. Dieu n'est pas comme ça, parce que Dieu n'est pas con. Moi, je le suis. Mais Dieu est intéressé à vous. Et ça, c'est important. Et on peut aller un peu plus loin aussi. Là, je voulais mettre tout de suite parce que j'ai oublié de mettre de l'animation. Mais Romains 1, versets 4 à 6, nous rappelle qu'on est appelés tous et chacun. Nous sommes appelés par Jésus. Personnellement appelés par Jésus. On va tourner, on va lire dans Romains chapitre 1, versets 4 à 6. Romains 1, versets 4 à 6. Donc, on va commencer à peu près aux trois quarts du verset 4, et on va lire 5 et 6. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous tous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Pour être appelé par Jésus, et là on va faire quelque chose de précis, vous souvenez-vous de l'histoire de Lazare, Marthe et Marie, Lazare est mort, et là il pleure, et Jésus leur dit, vous allez voir la résurrection ce matin. Et là, il dit quoi? Il dit, hey, sors! Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Lazare, sors. Il l'a appelé par son nom. Parce que si Jésus avait dit, hey, sors! Il serait tout sorti, là. Jésus est assez puissant pour tous les ressusciter en même temps. Mais c'est personnel. Jésus... Vous qui êtes appelés par Jésus, sachez que vous avez été appelés par votre nom. Et votre nom est précieux. Qui vous êtes est précieux. Il n'y en a pas d'autre comme vous, heureusement. C'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas un autre chrétien comme vous. Votre voix, votre son, votre personnalité, vos luttes, vos larmes, vos échecs, vos forces, vos victoires, elles sont à vous. Et vous allez les présenter à Dieu par le sang de Christ, lavé, purifié. C'est ça que vous allez donner à Dieu. Et c'est vous que Dieu veut. Et là, on peut aller plus loin. Dans Apocalypse, les lettres qui sont données à l'Église. À plusieurs reprises dans les lettres, il dit « Je connais tes œuvres et tes tribulations. Je sais ce que tu as vécu. Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu as souffert. » Dieu connaît vos œuvres, vos tribulations. Dieu est personnel. Dieu est relationnel. Apocalypse 2:17, il dit « Voici ceux qui triomphent, je leur donnerai un caillou sur lequel est un nom nouveau, que seul celui qui le possède le connaît. Vous allez avoir un nouveau nom, seulement vous et Dieu. Vous allez partager quelque chose d'unique avec votre Créateur, avec votre Sauveur. Parce que Dieu s'intéresse à vous personnellement. » Apocalypse 3:7, encore une fois, « Je confesserai son nom devant le Père, à celui qui triomphe. » Donc, c'est très personnel. Hein, Jésus ne se présentera pas devant le Seigneur à dire « Je représente l'Église baptiste de Trois-Rivières et tous ceux qui sont présents. » Non. Il va dire « Je me présente, je représente Marc-Olivier Martin. Je représente Nathalie, je représente Tony. » Y a-t-il d'autres que je connais votre nom vite, vite, là? « Je représente une personne. » Et c'est là la profondeur. Et c'est là aussi comment la parole de Dieu est tranchante. Vous savez, il y a une seule façon. Il y a un seul représentant, un seul médiateur, un seul salut. C'est la personne de Jésus. Je veux dire, ça n'y a pas rien coûté. Là. Le salut, c'est gratuit. Oui, mais ça a coûté le sang de Jésus. On est dans la période de Noël. Ça a pris l'incarnation de la divinité éternelle, de prendre des limitations humaines, d'être en couche. Moi, j'en reviens pas. Là. Je ne retournerai même pas en couche, moi. Là. Je sais que si je vis jusqu'à 96 ans, ça va arriver. Mais j'ai même pas le goût. Et je ne suis pas un Dieu éternel. Jésus a accepté l'humiliation. Il a accepté de vivre une vie banale. On vise tout à être quelqu'un de cool ou de super, de faire de l'argent, de représenter. Et Jésus, ça le dérangeait pas, lui. Il a accepté de vivre une vie banale de charpentier-menuisier. Ça, c'est banal. Il a accepté la croix. Il a accepté les coups de fouet. Il a accepté de se faire trahir par ses meilleurs chums. Ça prend. Faut être tough. Moi, je suis trahi par quelqu'un que j'aime pas, puis ça m'enrage. Jésus a été trahi par ses meilleurs chums. Il n'y en a pas un qui est resté. Apocalypse 3:20 nous parle d'une relation. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Souper avec quelqu'un, c'est une relation. C'est je veux prendre un temps. Je ne soupe pas avec quelqu'un que je ne veux pas connaître. Je ne vous inviterai pas chez nous si je ne veux pas vous connaître. Ce serait une perte de temps. Je n'irai pas cogner chez vous si je ne veux pas vous connaître non plus. Jésus se tient à la porte et il frappe. Il parle aux chrétiens. Il veut cette relation-là avec vous. Il parle aux églises. Ouvrez la porte de votre cœur. Laissez à Dieu une pleine place. Laissez-le avoir cette relation-là. Laissez-le vous transformer. Laissez-le prendre toute la place. Et ça apporte un changement drastique. Et là, j'ai trois noms à vous donner qui sont des changements drastiques du début de l'histoire chrétienne. On n'ira pas en profondeur. Si je vous parle de la conversion de Paul, c'est qui Paul? Saul et Paul. Saul et Paul, c'est un persécuteur de l'Église. C'est le gars qui a tenu les manteaux de tout le monde qui ont lapidé Étienne. C'est le gars qui respirait et sentait la mort des chrétiens. Il les détestait au nom de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé quand il a rencontré Jésus? Première chose que Dieu lui a dit. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Son nom. OK. Si tu te fais arrêter par la police puis ils disent, Marc-Olivier, t'es dans le trouble. Hein? Si tu te fais arrêter par la police puis il sait déjà ton nom, là, t'as fait quelque chose de pas pire. Et là, Dieu l'appelle par son nom. Et il fait vivre quelque chose d'exceptionnel et Paul n'est plus le même. 2 semaines, puis Paul est rendu dans un temple juif en train de confondre et de convaincre tout le monde que Jésus est le Messie. Et là, tout le monde panique. Et dans ce principe-là, si vous lisez Acte 9, il y a un homme qui s'appelle Ananias. Dieu lui dit, va à telle place dans la ville et tu vas trouver un homme qui s'appelle Saul. Il est aveugle, prie sur lui et redonne-lui la vue. Et qu'est-ce qu'il dit Ananias? Il dit, c'est pas le malade mental. C'est peut-être pas Ananias son nom, je m'excuse. Mais il dit, c'est pas lui qui tuait tout le monde. Dieu dit, oui, mais j'ai un plan pour lui. Vas-y. Ça nous donne l'apôtre Paul. Drastique. Ça commence par, Dieu l'a appelé par son nom. Un autre exemple, vous connaissez l'histoire de Corneille, le chapitre d'ensuite? Corneille, c'est un Romain. Corneille, c'est un gars qui n'a aucun rapport avec la foi juive. C'est un gars qui n'est pas censé recevoir le salut selon l'idée juive. Et Dieu se révèle à Corneille et lui dit, va chercher Pierre. Va dans telle ville et demande, va dans telle ville, va dans telle maison et demande ce gars-là, spécifique. Et pendant ce temps-là, Dieu envoie un beau petit rêve à Pierre. Vous souvenez-vous, c'est quoi? La nappe avec tout ce qui n'est pas mangeable. Et là, Pierre, il dit, non, Seigneur, je suis trop pur. Et finalement, quand les gens de Corneille viennent le voir, il comprend. Qu'est-ce qu'il comprend? Tout ce que tu penses de la religion, mon Pierre, oublie-le. Maintenant, le salut est offert aux non-juifs. Il vient tout briser. La puissance de l'Évangile est profondément ancrée dans chacun d'entre nous. Juifs, non-juifs, païens, québécois, africains, name it. Un seul Évangile, un seul Dieu, un seul salut, la personne de Jésus. Et dans Acte 10, Pierre prend le temps et il lui explique, voici, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre, qui a été crucifié pour nos péchés comme ça l'a été annoncé par nos prophètes, qui est ressuscité et qui nous donne maintenant la vie. Et pendant qu'il parlait encore, voici l'Esprit-Saint descendit sur eux, des non-juifs. Et là, Pierre comprend, Dieu est plus grand que je pensais. Dernier petit point, si vous lisez dans Acte 11, on dirait que je vous mets ma lecture personnelle, hein? Mais si vous lisez dans Acte 11, c'est la première fois où les gens qui croyaient et qui suivaient le Seigneur sont appelés des chrétiens. C'est la première fois depuis, et ça veut dire comme Christ, des gens qui sont comme Christ. C'est un changement drastique. Se faire appeler chrétien aujourd'hui, pour nous, ça, c'est léger. Ah, t'es chrétien?
Oui, oui.
Ah, t'es comme Christ? Oh, non, 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 non. Et pourtant, c'est ça que le mot veut dire. Hein? Hey, toi, t'es chrétien, toi, t'es comme Jésus. Hé, moi, j'ai pas les épaules pour porter ça, là. Avez-vous les épaules pour porter ça? Toi, t'es comme Jésus. Ah. C'est là viennent mes petites questions. Pour nous, pour moi, personnellement, comment est-ce que j'approche ma relation avec Dieu? Parce que les plans de Dieu ne sont pas les miens. Dieu veut être relationnel avec moi. Et moi, c'est une lutte dans ma vie parce que moi, j'aime ça faire des choses. OK? Je ne suis pas un jaseux. J'aime ça faire des choses. Envoyez-moi sur le terrain. On va se battre. Pas de trouble avec ça. Faites-moi faire des rencontres. Faites-moi faire. Mais demandez-moi pas de prendre des nouvelles, d'appeler. Je ne suis pas bon là-dedans. Pourtant, Dieu est un Dieu relationnel qui s'occupe de chacun d'entre nous, qui aime chacun d'entre nous profondément. Et comment j'approche ma relation avec Dieu? Est-ce que je me permets d'aller à lui avec tous mes soucis? Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai du repos. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la gloire. Comment est-ce que je traite ma relation avec Dieu? Est-ce que j'ai peur de Dieu? Si vous avez peur de Dieu, vous n'avez pas compris l'Évangile. Vous êtes pardonné. Y a-t-il des signes visibles de ma conversion? Si tu es le même qu'avant, ça ne fonctionne pas. Je l'ai déjà dit, je vais le redire, j'aime cette image. Donnez votre vie à Dieu. C'est comme si vous aviez été sur l'autoroute et vous vous arrêtez sur le bord parce que vous avez fait un flat, vous ouvrez votre porte et là, en sortant, vous ne regardez pas et là, paf! Vous vous faites ramasser par un semi-remorque 53 pieds. Ça laisse des traces. Vous n'êtes plus le même. Et là, si vous me contez cette histoire-là, debout sur vos deux pieds, pas de plâtre, pas de mal de tête, pas de Tylenol, ça m'est arrivé, je suis sorti de mon char, pam, ça t'a pogné par les 53 pieds, revolé 500 pieds plus loin, fait des tonneaux, je suis tombé dans le fossé, je me suis relevé et continué. Est-ce que je vais vous croire? Non. Si vous me dites que vous êtes chrétien, vous me lâchez 2-3 sacs, puis vous partez avec votre six-pack pour faire le party, ça se peut que j'aie un doute. Est-ce que je suis en train de vous juger? Non. Est-ce que ça veut dire que je vais être parfait? J'espère que non. Mais est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient montrer que vous avez vraiment compris ce que Dieu a fait pour vous? Êtes-vous intéressé à plaire à Dieu? Êtes-vous intéressé à avoir cette relation-là avec lui? Et ça va avec le dernier point. Suis-je drastiquement transformé dans mon âme et dans mon cœur? Est-ce que j'ai les mêmes Est-ce que j'ai les mêmes choses que j'aime? Est-ce que j'aime les mêmes choses qu'avant? Est-ce que je suis capable d'aimer les choses que Dieu aime? Est-ce que je suis capable de dire et de faire un tri dans ma vie, de dire, moi j'aime ça, mais je ne pense pas que c'est bon? Et c'est un peu là, le plan de Dieu n'est pas un plan humain. Dieu ne regarde pas les choses comme nous. Dieu change le monde. Depuis toujours, Dieu transforme le monde en utilisant des gens normaux, avec une foi sincère en lui. Aucun n'était parfait, mais tous avaient un Dieu parfait. C'est lui qui change tout. C'est Dieu qui change tout. Et on peut lui faire confiance. Il a un plan merveilleux. Son plan va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et il est intéressé à chacun d'entre nous personnellement. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais prier, je vais changer de chapeau. On va prier. Seigneur Jésus, merci d'être un Dieu relationnel. Merci d'être un Dieu qui travaille dans ma vie, premièrement. Merci d'avoir été avec moi à chacun des tournants, dans chacune des épreuves, à chacun des bons coups. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici qui a sans doute besoin de s'approcher encore plus de toi. J'espère qu'on a tous le désir, Seigneur, de te connaître plus. Seigneur, cultive ce désir dans chacun de nos cœurs. Aide-nous à nous approcher de toi. Aide-nous à chercher ta proximité. Seigneur Dieu, transforme nos cœurs afin qu'on soit vraiment pleinement satisfait en toi, afin qu'on n'aille pas chercher ailleurs, afin, Seigneur, que notre relation avec toi soit la chose la plus importante. Aide-nous à entendre ta voix dans le chaos du monde. Aide-nous à l'écouter. Aide-nous à nous humilier quand on manque notre coup. Aide-nous à aller auprès de toi pour le pardon. Seigneur Dieu, sois notre sauveur, comme tu veux l'être, comme tu l'es à la perfection. Jésus bénit cette église, chaque personne ici ce matin. Jésus, révèle-toi d'une façon spéciale. Jésus, touche le cœur des gens de la ville de Trois-Rivières. Que, Seigneur, chaque croyant, ici présent ou dans leur maison ou ailleurs dans d'autres églises, Seigneur, ait à cœur de partager qui tu es, d'aimer les gens qui sont haïssables, comme toi tu nous as aimés le premier. Seigneur Dieu, aide-nous à tendre la main en tant qu'église, en tant que personne, en tant que croyant. Seigneur Dieu, rends-nous dignes par ta parole de porter le nom chrétien. Rends-nous dignes, Seigneur, de dire qu'on a une relation avec toi. Permets-nous de ne pas bafouer ton nom. Permets-nous de ne pas t'humilier par notre lâcheté chrétienne. Seigneur, sois notre Dieu, transforme comme tu le fais si bien. Et bénis-nous ensemble en cette période de Noël où on se rappelle le prix que tu as payé. Merci de nous diriger, de nous guider. Et Seigneur Jésus, vraiment, fais du bien à nos cœurs ce matin. On te prie ces choses pour ta gloire. Amen.